smile you fake and a claim you stay. I've been watching you. Oh yeah, since you've gone I've been lost without a trace. I dream the night I can only see your face. I look around but it's you I can't replace. I feel so cold and alone.
On Sunday, I'll be waiting for love, waiting for love to come around.
Nous sommes en direct sur RTCI. Notre invitée est Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Elle va nous parler dans quelques instants de son roman L'île aux mers. L'île aux mers est le premier roman de Fatma Bouvet de la Maison Neuve, psychiatre, addictologue spécialiste des troubles psychiques des femmes. Elle a publié plusieurs ouvrages, des essais chez Odile Jacob, une arabe en France, Une vie au-delà des préjugés, Enfants et parents en souffrance, Le choix des femmes, Les femmes face à l'alcool, Résister et s'en sortir, chez le même éditeur Odile Jacob, et puis deux romans, le tout premier, L'île aux mers, dont on va parler aujourd'hui, aux éditions Pont-Neuf et chez Ibn Arabi en Tunisie, L'odeur d'un homme, chez les deux éditeurs également. Elle est avec nous en direct depuis Paris. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous, merci d'être en direct avec nous. Alors, L'île aux mers paraît en Tunisie. Déjà, ça, c'est la première nouvelle, la première bonne nouvelle chez Ibn Arabi. On aura sans doute le plaisir de vous retrouver à la foire du livre, Fatma Bouvet de la Maison Neuve.
J'espère que vous serez nombreux à venir en parler avec moi.
Absolument. Alors, on constate que la femme occupe une place centrale dans votre œuvre de manière générale, qu'il soit question de romans, d'écriture littéraire, romanesque ou d'essais. Pourquoi ?
C'est vrai, hein, c'est vrai. Pas que les femmes, mais effectivement les femmes essentiellement, parce que je pense que la femme est le vecteur de tout un tas de tabous. En tout cas, autour de la femme se construisent des tabous, et c'est ce qui fait notre, on va dire, nos règles sociales, une certaine convention, un certain conformisme et énormément de non-dits. Et maintenant, on sait ce que constituent les non-dits dans une famille, les secrets familiaux. Et moi, mon objectif, et c'est quelque chose effectivement qui m'anime lorsque je réfléchis, c'est de lever les tabous et certains non-dits pour que les choses soient plus fluides entre nous. Et c'est vrai que dans mon travail en tant que psychiatre et depuis que j'ai écrit en particulier des romans, c'est vrai que c'est une question qui est omniprésente. Mmh. Je pense qu'accepter le fait accompli de ce qui est autour des femmes nous emprisonne, nous empêche de réfléchir. Je vous le dis comme ça, spontanément, je pense que ça nous empêche de réfléchir. Le fait d'accepter des règles, des conventions, et de ne jamais les chahuter, de ne jamais les remettre en question, c'est une fausse tranquillité. Et à un moment, on se rend compte que ces règles-là qui nous muselent, nous les femmes, d'une certaine façon, se retournent toujours contre nous, mais un jour, elles se retournent contre ceux qui ont établi ces règles. Mmh. Donc j'ai envie de rendre ces questions secrètes, publiques, accessibles à tous, pour qu'on puisse mieux nous comprendre et qu'on puisse mieux vivre ensemble.
Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il y a des sujets tabous autour de la féminité encore aujourd'hui? Et si oui, lesquels? Est-ce que ça change d'une société à l'autre, Fatma Bouvet de la Maison Neuve?
Alors oui, évidemment, il y a énormément de sujets tabous autour de la femme. Moi, je dirais que la femme est un sujet politique tabou. Enfin, la femme, les femmes, puisque nous sommes aussi différentes les unes que les autres. Et bien sûr, dans les sociétés conservatrices, il y a énormément de non-dits autour du vécu, du ressenti, de la pensée des femmes. Dans les sociétés moins conservatrices, qui ont fait ce travail de réflexion et d'intelligence au sens réel du terme, au sens littéral du terme, c'est-à-dire de chercher à comprendre, les sujets sont plus comment dire, plus mis sur la place publique. Je ne dirais pas que ce sont des sujets qui vont de soi, mais on peut en parler plus facilement, c'est vrai, dans les sociétés moins conservatrices.
Mmh. Un roman, donc L'île aux mers, hein, qui vient de paraître chez Ibn Arabi en Tunisie, qui a vu le jour en France aux éditions Pont-Neuf. C'est votre tout premier texte, tout premier roman. Un roman est presque un personnage central, hein, un personnage essentiellement qui porte le prénom d'Ève, discrète voire effacée. Ève n'a rien d'une héroïne, si ce n'est le courage d'affronter la réalité. Elle n'aura jamais d'enfant. L'infertilité est une pathologie fréquente. Elle pose un problème psychologique très profond chez les femmes. Pourquoi avoir choisi d'en parler? Est-ce votre façon, Fatma Bouvet de la Maisonneuve, de mettre en lumière un sujet tabou? Est-ce un sujet mal compris, mal accepté?
Alors moi, c'était surtout le désir d'avoir un enfant qui m'intéressait et que j'ai eu l'occasion d'abord d'expérimenter avec moi-même, mais surtout que j'ai pris l'habitude de beaucoup discuter avec à la fois mes patientes, mais aussi autour de moi. Ce n'est pas tant la question de la stérilité ou de la non-fécondité, mais le pourquoi voulons-nous avoir des enfants? Qu'est-ce qui fait que nous allions toutes vers cet objectif, alors qu'on sait d'une certaine façon que c'est un peu perdu d'avance, puisque faire un enfant, c'est... là, je vais un peu plomber l'ambiance, hein, excusez-moi, mais c'est donner naissance finalement à un être qui va mourir un jour comme nous, puisque nous sommes tous mortels. Et on sait, de façon un peu plus pragmatique et moins philosophique, je dirais, que c'est très 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 difficile d'avoir un enfant. À partir du moment où vous décidez... Vous avez un enfant, votre vie bascule, vous ne vous appartenez plus. Et en particulier les femmes, on ne s'appartient plus. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de réfléchir à cette espèce de gouffre abyssal dans lequel on est toutes, enfin pas toutes, pardon, parce qu'il y a des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Mais celles qui souhaitent avoir des enfants, on est toutes aspirées comme ça, où on sait qu'on va se perdre, on va en perdre la tête, on va en perdre la raison, on va en perdre notre corps, mais on y va quand même, et c'est quelque chose qui, pour moi, comment dire, est un vrai mystère. Je dirais même que c'est ça me dépasse, ça nous dépasse toutes. J'ai eu la chance d'avoir une discussion très intéressante avec une patiente hier qui me parlait de ce sentiment, qui me disait, alors qu'elle-même a eu une enfance extrêmement difficile, une enfance maltraitée, vraiment maltraitée, et qui a une fille et qui se posait la question de comment faire pour ne pas reproduire ce qu'elle a vécu. Et elle a l'impression que elle consacre chaque instant de sa vie à faire en sorte que sa fille ne vive pas ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'elle expliquait que sa vie entière était consacrée à la vie de sa fille. Et ce sentiment-là et cet objectif-là qu'on se donne de s'oublier finalement face à nos enfants, pour moi c'est un mystère et ça me dépasse et ça nous dépasse. Et c'était plutôt ça que j'avais envie de traiter. Parce que si on parle de stérilité, etc., oui, bien sûr, il en est question dans le livre. Bien sûr, il est question de ça, parce que Ève part, parce que personne ne comprend pourquoi elle se sent si mal de ne pas pouvoir avoir un enfant. C'est ça l'histoire au premier degré. Mmh. Mais en rencontrant toutes ces femmes qui, elles, ont des enfants, elle comprend l'absurdité de sa quête, mais en même temps l'incontournable de sa quête. Mmh. C'est ça que je trouvais intéressant à traiter.
D'ailleurs, hier, allez-y.
Non, je disais que je préférais le traiter d'un point de vue des émotions et de la description des corps, mais pas du tout d'un point de vue rationnel, parce que je pense que la question n'est pas rationnelle, en fait. Mm-hmm. Alors, cette question-là n'est absolument pas rationnelle.
Alors, c'est justement hier, vous parliez à l'instant de degrés de lecture ou de différentes interprétations selon les lecteurs ou les lectrices de ce roman. Hier, je comparais ce livre au Matryoshkas, jolie appellation pour désigner les poupées russes, oui, de taille décroissante, placées les unes à l'intérieur des autres. Je disais, ce livre me fait penser à ces matryoshkas. Les pages, les histoires, les rêves, les frustrations se mêlent et s'entremêlent. Le début aurait pu être une fin, et la fin, un début. Vous êtes d'accord avec ça?
J'ai beaucoup aimé ça. Oui, j'ai beaucoup aimé. En fait, ce livre, finalement, m'apprend tous les jours, parce que au moment où je l'écris, c'était vraiment une jubilation extraordinaire. D'abord, c'était mon premier roman, et puis je me suis beaucoup attachée, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais au travail de la description, qui était très difficile pour moi, la description de l'ambiance, de l'atmosphère, etc. Mais au fur et à mesure que les personnes le lisent, j'ai eu des témoignages qui me l'ont fait lire encore d'une façon différente. Et c'est ça qui est génial dans la littérature, c'est que finalement, vous avez l'impression de créer un truc extraordinaire parce que vous y avez travaillé pendant des heures et des jours et parfois des années, et que vous avez finalement abouti sur un objet qui est à peu près, voilà, plus ou moins satisfaisant. Moi, en général, je suis jamais satisfaite, mais en tout cas, c'est un objet abouti. Et puis, les autres en font ce qu'ils veulent. Et là, en particulier, comme ce sont des histoires de femmes et ce sont des histoires aussi complètement universelles, j'ai eu des retours comme ça... très étonnant, oui. Et le vôtre en particulier, parce que je voudrais pas dire en fait de quoi, pourquoi est-ce que vous dites ça, parce que si vous dites pourquoi est-ce que la fin est le début, et le début est la fin, on pourrait comprendre, mais ça fait vraiment partie de la philosophie et de, je dirais presque de la mythologie de ce livre là.
Alors justement, et à propos de témoignages, Hélène écrit sur les réseaux sociaux: après un début plus léger mais qui laissait entrevoir des drames, on atteint vite une acmé magnifique, présentée dans un récit rétrospectif simple et poignant, la tragédie planée, et quand elle éclate, toutes ces femmes, en ce lieu presque onirique, d'une pureté quasi originelle, forment un cœur antique plein de compassion et d'empathie, car toutes sont des mères, pleines d'amour et de douleur, qui se confient à tour de rôle, toutes unies autour d'Ève, la seule sans enfant, belle illustration d'une parole qui libère et qui guérit. Un beau sens du bonheur capable de transcender les tragédies de la vie. C'est signé Hélène. C'est un témoignage sur les réseaux sociaux qui résume aussi finalement assez bien ce roman et votre manière d'aborder la question de la maternité, de la féminité, parce qu'à un moment donné, je crois que les deux s'entremêlent.
Oui, complètement. D'ailleurs, je mettrai davantage la question de la féminité au-dessus de celle de la maternité, je crois, parce qu'elle parle effectivement de ce qu'il est lui à leurs enfants, mais les corps et la parole des femmes s'entremêlent entre elles, mais elles s'entremêlent aussi avec les astres, avec les couleurs, avec la nature, avec la mère en particulier, qui joue un rôle important dans cette histoire, puisqu'on pourrait dire l'île aux mères, on pourrait le lire avec dans le sens de Homère, donc l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, et la mère étant pour moi un élément extrêmement fécond. D'ailleurs, on y voit de nombreux pêcheurs revenant avec leur pêche, et donc cette mère unit ces femmes. Donc il y a quelque chose que j'avais envie de mettre en lumière, qui est la communion que je pense nous avons, nous femmes, du fait peut-être de notre statut social, mais peut-être aussi de notre biologie, cette communion particulière avec ce qui nous entoure, avec la nature, cette hypersensibilité que nous avons un peu à tout. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes capables d'être mères, parce que peut-être que nous sommes hypersensibles, je ne sais pas.
Elles viennent justement, ces femmes, tour à tour, déposer leur histoire, leur joie, leur tourment, surtout leur tourment, j'ai envie de dire, au pied d'Ève, dans la douceur de la Fata Morgana, ce phénomène étrange où terre, ciel et mer se mêlent. Les récits alors s'enchevêtrent, tentant de partager le secret le mieux gardé du monde, celui qui lie les mères à leurs enfants. L'atmosphère de ce roman, Fatma Bouvet, de la Maison Neuve, est particulière, elle est imprégnée de lumière, comme si vous déposiez ces histoires et ces femmes aussi dans une forme de mythe. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, j'ai beaucoup apprécié travailler sur La Lumière. Alors pour tout vous dire, c'est un livre qui a été écrit et qui a été écrit à Djerba, où si les personnes connaissent Djerba comprendront, La Lumière est particulièrement renversante. Elle est par n'importe quel climat, je dirais, La Lumière est puissante. Elle est joyeuse, elle est parfois tragique, elle est parfois onirique, elle vous emporte. Et donc j'ai beaucoup aimé travailler l'environnement et la lumière. Mais sur le plan littéraire, de la littérature, de l'écriture, c'était très difficile et je voulais m'exercer à cet exercice. Tandis que dans L'odeur d'un homme, justement, je voulais travailler sur les odeurs. Et voilà, la littérature, c'est effectivement une extrême jouissance d'écrire, mais moi j'apprends là. Donc à chaque fois je me disais voilà, il faut que je me penche sur comment travailler, comment transmettre au mieux cette lumière qui est absolument unique qu'on trouve à Djerba. Et ça a donné, j'espère en tout cas, ça a donné cette espèce de d'atmosphère transcendantale comme ça au sujet, autour d'un sujet qui nous dépasse et qui relève de l'indescriptible, de l'indicible.
Mmh. Alors ce livre fait partie de notre sélection de ce printemps 2024. On en reparlera dans l'une de mes émissions, de mes productions Livre à lire à 9h30 sur RTCI. Je préciserai la date très prochainement. Et puis, je l'espère, on retrouvera au sein de la Foire du Livre. Est-ce que vous avez des dates?
Alors, le 27 avril prochain, une signature est organisée au stand Ibn Arabi. Je crois que c'est le stand 1301 dans le hall 1. Donc, je vous y attends dans l'après-midi. Et puis, une séance de présentation de notre travail commun est formidable avec la maison d'édition Ibn Arabi et les éditions du Pont Neuf en France, qui est un travail de collaboration qui s'est fait en toute fluidité de façon admirable, qui a permis donc la diffusion de ce que j'écris comme fiction en Tunisie, sera présenté au stand de l'Institut français de Tunis dans la même après-midi, le 27 avril. Donc je serais vraiment ravie de rencontrer les lectrices et les lecteurs, parce que ça n'est pas un livre qui s'adresse aux femmes uniquement, c'est au contraire un livre qui s'adresse à ceux qui veulent nous connaître et à ceux qui veulent vivre en paix avec nous, les femmes.
Mmh. Merci beaucoup, Fatma Bouvet de la Maison Neuve. On a hâte de vous retrouver au sein de la Foire du Livre. Je vous souhaite beaucoup de succès,
merci.
Beaucoup de lecteurs,
merci
et
beaucoup.
De lectrices. Très belle journée
merci
à vous.
Beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. À 13h30, les brèves. Et puis on se retrouve juste après. C'est toujours autour de midi. C'est en direct jusqu'à 14h. Tarek Drissi à la réalisation. Mounir Hamemi à la coordination. Olim Trabelsi au web. Emna Louzir au micro. Et en direct depuis le studio 1.
This morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's
is love yourself without a trace. One kiss can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are